C'est un voyage immobile à l'intérieur d'une immensité. C'est un pays qui n'est sur aucune carte, celui de l'écriture et du poème. Et ce n'est pas une formule ou une coquetterie, non, c'est finalement très concret. C'est un écrivain, Christophe Fourvel, qui se rend chez un autre écrivain, Mathieu Messagier. C'est écouter une amitié, écouter l'écriture qui parle, écouter la vie intérieure dans un lieu où elle peut enfin se déployer. Écouter la forêt aussi, et le feu, et la modestie des mots. Un aller-retour au pays de Trelles par Christophe Fourvel et Gaëlle Gillon.
On est parti au pays de Trelles.
On peut vivre une vie entière en un seul matin doux.
On va quitter Besançon, là. On va prendre la route pour aller chez Mathieu Messagier. On va éviter l'autoroute. On va traverser plusieurs villages du Doubs. On va passer une vieille frontière entre le pays catholique et le pays protestant. On va rentrer dans le pays de Montbéliard.
En 2014, j'ai entrepris l'écriture d'un roman sans avoir en tête ni histoire ni personnage. Je ne partais pas pour autant de rien. Je m'imposais une seule contrainte: me perdre dans mon propre roman. Il s'agissait donc d'un voyage au long cours envisagé sur plusieurs années. Après avoir écrit parmi une vingtaine de livres, de romans très épurés, sorte de monologue intérieur tendu, je m'imposais de m'attaquer à une fiction foisonnante. J'avais toujours pratiqué le monochrome gris-bleu. J'étais lassé de mes propres nuances minuscules, de mon ciel complice. Je voulais utiliser toutes les couleurs possibles. Je voulais que ce roman dise tout ce que j'étais au moment où je l'écrivais. Cela dura 4 ans. Le livre qui est issu de cette plongée intérieure s'intitule « Chronique des années d'amour et d'imposture ». Je n'avais pas d'éditeur à ce moment-là et, compte tenu de la taille pressentie du livre, de mon manque de notoriété, je n'excluais pas de n'être que le seul lecteur de mon livre. Plongé dans une écriture pendant 4 ans avec le profond désir de vous perdre et savoir que, quand bien même cela débouchera sur de l'achevé, vous ne serez lu que par vous-même et quelques proches n'est pas sans interaction. Je veux dire que la plongée gagne en opacité, que le voyage s'épaissit d'un noir qui lui est intime. On a fait le choix d'être seul, et quelque chose du social vous donne un supplément de solitude. Cette solitude ne se contente donc pas d'être passage, mais devient destination. En 1990, mon ami Mathieu Messagier a fait paraître un livre intitulé « Oran ». L'écriture de ce livre constitua à coup sûr une immense traversée. Je voulais me rendre chez Mathieu et parler de ce livre avec lui. Je voulais aller au pays de Trelles. Inutile de chercher ce territoire sur une carte IGN. Il est dit « mythique et insaisissable » et se déploie dans une lumière inviolable. Ce sont là les mots que l'on trouve pour le nommer lorsqu'on se met en tête de le localiser. C'est là que s'écrit la poésie de Mathieu Messagier. Mais pour ceux qui voudraient s'en remettre à la seule géographie terrestre, Mathieu écrit chez lui et seulement chez lui à cause d'une sale maladie qui empêche les escapades, qui oblige à renoncer aux rhododendrons dans les prés d'Engadine comme aux virées parisiennes. C'est donc au lieu-dit Le Moulin, quelque part entre les villages de Lougres et Colombier-Fontaine, qu'il a achevé d'écrire Oran. Livre monstre, livre mère, bouée conçue à même le tissu de sa traversée et dont les 800 pages disent ce qui devrait être l'enseignement premier. On peut vivre une vie entière en un seul matin doux.
les bordées successives de suées d'esprit et de secousses violentes frémissent sur les champs d'orge, à toute vitesse, et tonnent un peu après, ou au contraire n'ont pour bruit que la chaleur. Luisant du matin tôt à conjuguer, les trempées du sol des labours, même endroit, le temps de l'épanche par la tête, longuement rendent compte d'oubliant. Et là où lui un soleil répétitif, sur un seul plan de ses reflets atomiques et matériels, mais sur les espaces et les plans pour sa lumière volontée, là, sur un carré de terre exaspéré d'alouette, là, le sang-froid des lignes de la sieyère le linteillé, leur face apposée aux crevasses que la sécheresse dessine. Ils n'y comprennent rien. Ils ne se retournent pas, leurs humeurs roulent sur la poussière sans l'humecter. Sinon, l'essentiel, leur accolade s'érille. Ils sont logiquement là.
Alors, c'est pas seulement chez Mathieu. Enfin, c'est chez Mathieu, mais c'est la maison des messagers. C'est une grande histoire. C'est une famille. Donc, c'est une maison qui a été construite dans les années 60 pour Jean Messager, le peintre, et sa femme, qui était, elle, céramiste. C'est une maison qui a vu passer pas mal de peintres. On a une photo, enfin j'ai vu une photo, dans je crois que c'est un bouquin sur Bram Van Velde, où on aperçoit Samuel Beckett dans le jardin. C'est un vieux moulin complètement revu, repensé architecturalement. On pense inévitablement à la chanson de Brel, c'est une maison avec des tas de fenêtres et avec presque pas de murs. C'est là qu'habite Mathieu, maintenant il y a son neveu, Élie, qui habite avec sa compagne et leur enfant à l'étage. À côté, il y a la maison de Thomas Messager, qui est le fils qui a pris en charge le devenir du travail de Jean, du père, donc qui continue rédiger un catalogue raisonné des œuvres de Jean et qui s'occupe plus spécifiquement de faire rayonner cette œuvre qui est passée par un petit purgatoire. C'est un nom qui s'est un peu perdu à un moment donné, Jean Messager. C'était un nom qui était associé à celui de Soulages, à une époque, de Ribérolle, de Talcoat, de gens comme ça, et puis qui a un peu moins brillé que Soulages ces derniers temps, pour des raisons qui ne sont pas forcément artistiques. Et Thomas essaye de faire en sorte que les choses changent un peu. Et je crois qu'elles sont en train de changer d'ailleurs. Alors c'est aussi une pensée pour un autre livre de peut-être autant de pages, mais qui est peut-être dans un registre différent. Un vrai roman, extrêmement maîtrisé, mais un roman dans lequel sûrement l'auteur s'est perdu, qui est « Là où les tigres sont chez eux », de Jean-Marie Blas de Robles, qui a un livre, je crois qu'il a mis 10 ans à l'écrire. On lui demandera, j'aimerais bien qu'on lui demande en fait, qu'on lui téléphone pour lui demander. J'ai eu un sentiment, je trouve, extrêmement précieux, que j'ai très peu eu dans ma vie, de lecteur, parce que c'est un sentiment de lecteur. C'était de me sentir aussi important en tant que lecteur que ce que je peux me sentir important en tant qu'écrivain. De se dire que on fait le livre avec l'écrivain quand on le lit vraiment. Que si on n'était pas là à l'autre bout de la chaîne, le livre serait vain. Et que c'est un vrai travail, c'est une vraie présence que d'être un vrai lecteur d'un vrai livre. Que ça donnait du sens à toutes ces années passé par l'écrivain à l'écrire, et je me souviens vraiment de ce moment de lecture comme un moment ému où je me disais que voilà, j'accomplissais quelque chose qui était essentiel pour ce livre en étant son lecteur. c'est derrière ces arbres-là. Il faut faire une manœuvre un peu audacieuse pour entrer chez Mathieu. Je pense que c'est... Il y a 3 mètres d'interdit. Donc, on rentre. On arrive par un tout petit pont au-dessus d'un petit ruisseau qui traverse le jardin, la maison de Thomas, son atelier. Et voilà le moulin. Voilà l'ancienne, l'ossature ancienne et ce qui a été créé avec ses tas de fenêtres et ses presque pas de murs, ses pièces suspendues. Salut Mathieu.
Nous sommes là à l'heure.
J'ai 71 ans, moi, là. Physiquement, ça va pas du tout, hein, c'est évident. Mais ça va. J'aime bien le jour qui passe. Quoi.
Oran, tu l'as commencé ici ?
Non, à Paris.
À Paris.
En 78, les prémices d'Oran, qui s'appelaient les orobanches, d'ailleurs. C'est une fleur. Une fleur sans sève qu'on trouve qui est extraordinaire. Et puis c'est devenu Oran, mais dans les premiers. Il n'y a pas de chapitre, hein, c'est un poème. Hein.
Oui.
J'ai bien écrit au début. C'est un poème en prose de 800 pages,
oui.
Mais qui est. Que j'ai poursuivi ici après, avec une espèce de. Comment on peut dire. Parce que c'est assez chaotique, hein, la poésie, moi j'ai eu beaucoup de... Là, ça s'est passé dans une sorte de calme, Oran. Paradoxalement, on le prend pour un livre très difficile à lire, moi c'est l'inverse. C'est celui que j'ai écrit avec le plus de calme. Comme un journal, comme un jour... Je sais pas, on peut imaginer un ermite ou un, je sais pas, un ouvrier agricole qui tous les jours prend son cahier puis récite sa journée... Moi, c'est ça, Oran, c'est rien d'autre. C'est pas du tout un livre, je sais pas comment on peut dire, qui s'est voulu complexe et tout, pas du tout. Pas du tout, la vie est encore bien plus complexe que tous les livres qu'on peut écrire.
Mais d'emblée, tu avais conscience qu'il aurait cette ampleur ?
Ah oui, quand même, oui, parce que...
Tu savais au début que tu allais
écrire
un livre
je m'attelais à quelque chose, puisqu'il y a beaucoup de noms inventés.
Oui, bien sûr.
Des paysages, des êtres, etc., mais le nom que je leur donne au début, parce qu'il a fallu 5 ans pour l'écrire, 4 ans, 5 ans, et je leur donne à la fin,
bien sûr.
Il y a une cohérence à l'intérieur. Et on m'avait dit, tu devrais faire un glossaire, mais justement pas. Parce que moi, ces noms inventés, c'est celui qui lit, qui les prend,
bien sûr.
Qui a son propre glossaire. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas un livre sur moi. C'est une sorte de témoignage du silence, comme disait Jacques Ferry, une version muette du silence. Qui est un titre que j'aime beaucoup. C'est simple. Une sorte d'écriture sans époque, assez intemporelle, sans nom. Avant, pour moi, ça voulait dire ouvrir les guillemets. Ou une essence, quoi. C'est quelque chose que tu commences.
Oui.
Et qui, en plus, est à part dans tout le monde. En plus, c'est ça qui est étonnant. J'ai eu besoin de ça, à un moment donné de ma vie, pour disparaître derrière le livre. C'est un poème en prose, mais c'est pas la même poésie que mes autres.
Non.
Enfin, c'est pas facile à expliquer, mais j'essaie d'être le plus clair possible quand je parle d'Oran, parce que tout était clair en moi, en le commençant et en l'achevant. Donc, je dis ce qui est, quoi. Sans plus, sans moins.
C'est un moment important de ta vie, quand même.
Ah oui. Bien sûr.
Est-ce que c'est un livre qui te tient debout?
Ah, énormément.
Comme on dit un peu bêtement.
Oui, oui, non. C'était un moment de calme. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, évidemment.
Que tu as pu retrouver par la suite?
Ah ben, c'était pas possible. C'était comme c'était un deuxième état avant. Le premier état serait celui de la poésie un peu d'avant la pensée.
Oui.
La poésie presque primitive. ensuite cet état-là, qui serait une sorte de grande mise au point, inconsciente aussi, hein. Pas une mise au point, le mot n'est pas beau, de grand calme, de grande parenthèse pour passer de la poésie presque native au troisième état, parce qu'on ne peut pas être toute sa vie comme un primitif que j'étais, pour passer à un état de la troisième état, j'appelais ça le troisième état, l'après Oran. Et là, il fallait que j'en passe par Oran pour écrire tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai écrit après.
Quand tu écris Oran, tu as évidemment pas d'éditeur pour ce livre. C'est après que c'est...
Non, oui, ça a été dur, là, l'édition.
Et tu y penses quand tu l'écris? Tu y crois?
Bah oui et non. Moi, c'est l'écrire le plus important.
Bien sûr.
Bourgois, quand il a publié, après, mais j'ai trouvé des aides et tout, mais il a pris à son catalogue, là, il était bien, puis il m'a dit, vous savez, je prends un risque, hein, en le publiant. Puis j'ai rien à dire, j'ai dit, moi, j'en prends pas en l'écrivant. Je lui ai dit, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Tu vois, mettons les choses en place. Il n'a pas gagné d'argent, il n'a pas perdu beaucoup non plus, même pas du tout. Alors, qu'on ne vienne pas m'emmerder avec toutes ces conneries. Là, je peux devenir mauvais, là.
Ouais.
Enfin, ben alors,
on lui en a donné de l'argent.
Il y en a assez qui ont crevé comme des chiens oubliés, hein. Ceux-là qui n'ont pas eu la chance que j'ai vue. Pour un Raymond Roussel qui a dilapidé l'argent de sa famille en publiant ses livres à compte d'auteur, ben bravo, chapeau, dilapidons. On ne dilapide pas assez. On m'avait dit, même quand j'étais jeune, il n'y avait pas de conscience politique. Je dis si, j'ai une conscience poétique. C'est beaucoup plus important. Hein, il y en a peu. On dit que des consciences politiques, on en trouverait partout. Moi, c'est une conscience poétique qui est beaucoup plus dure, violente, à supporter d'abord par moi. Et qui prend en charge le mystère des choses, même la métaphysique, hein, sans rentrer dans le truc, les conversations théologiennes et tout. Moi, j'aime bien tout embrasser sans rien connaître. Je sais que les gens ont horreur de ça, mais dans un des derniers poèmes, j'écris, j'adore parler de ce que je ne connais pas. Parce que ça, c'est merveilleux, c'est un droit presque enfantin. De parler, bon, tu fais pas de mal, tu parles, ce qu'on fait là. Et puis après, il y a des gens qui t'aiment, petit truc, ou pas. Puis c'est tout, on prend ça à autre chose demain, quoi.
Le chien renversé était l'Afrique. La même torpeur de chemise, une brièveté. Quand une neige de mai a courbé les herbes déjà assez hautes, et le brevet. Ces gens étaient des odeurs rares de matin, montant les escaliers et retrouvant le début du monde. Ensuite, la montée et l'écoute. La série des émotions en déplacement de dinguerie, la récitation de la grande densité de la couverture à 10 mètres du taillis et par-dessus l'ensemble, submergeant les tentatives individuelles, l'air contrefort. Dans l'ardeur réveillée des élans de dominicales, au presque bruissement de la vallée écrite et frôlée par les apprêts rédigés au bord des mouvements de cuir, dans l'ascension tranquille des proximités de la belette. L'asphalte confidentiel, nouvelle qu'il avait toujours connue debout et contre un mur de préau, très légèrement roulée en bas et en haut, constituait la narration intégrale en 6 ou 7 pages de ces mois couverts pudiquement jusqu'au paroxysme. Et personne ne pouvait guérir autrui de l'inconnu, sinon le théorème de la source.
Ça, c'est le bruit du feu. Tu l'entends ? Beau, hein ? Ça aussi, c'est des choses. Il m'arrive de passer des journées comme ça, à le regarder, à l'écouter. C'est paradoxal parce que je suis dans un fauteuil, mais je ne m'ennuie jamais. Écrire, c'est presque. Là, je vais aller un peu loin, mais c'est souvent le cas, presque une corvée. Tu vois, c'est drôle. Hein, Vivre, je trouve que ça suffit à soi-même. Et beaucoup de gens ne le font plus, ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner de leçons en disant faut lire ça, faut... pas du tout. Moi, j'ai des amis, j'avais un chanteur d'un groupe de rock'n'roll punk avant l'heure que j'aimais beaucoup. Et ben, il m'a beaucoup appris. Et un jour, il y avait beaucoup de monde, tout. Puis lui, il avait dit oh, ce qu'il écrit, Mathieu, c'est fantastique. Puis il y en a un qui s'est dit oui, mais tu l'as jamais lu, comment tu peux dire ça? Et puis moi, j'ai rétorqué lui, il a le droit. Il les a lus. Parce qu'il les est, EST. Mm-hmm. Tu vois? Et ça, c'est pas les choses qui s'inventent. Je connais des gens qui étaient des grands intellectuels, qui ont beaucoup étudié et tout, puis qui me faisaient chier comme c'était pas possible.
Bien sûr.
Hein, alors que des gens très simples, comme ça, avaient tout d'emblée. C'était des poètes à leur manière, quoi, tout simplement.
Ça, ça, tu dis souvent ça, hein, ouais, qu'il y a autant de poètes qui n'écrivent pas. Il y a plus
bien
de
sûr.
Poètes qui n'écrivent pas.
Que bien sûr. Poètes qui bien sûr. Puis attends, on ne parle pas de toutes les femmes au 19e et avant. Pour une Emily Dickinson, qu'on lit encore, comme, ce qui est normal, c'est une immense poétesse, c'est qu'elle avait un caractère de chien. Hein. Mm. Elle s'est imposée. Mais il y en a beaucoup qui devaient être dans des milieux. Je suis sûr qu'il y a des tas de choses. Ils étaient dans les tiroirs, au bolet. Ça, j'en suis persuadé.
Ou pas écrite.
Ou pas écrite. Mais elles sont là quand même, quelque part. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, c'est Jacques Kerouac, qui disait, c'est l'âme qui parle tout le temps, retoucher, c'est un crime. Tu vois? Retoucher des...
Des textes.
Des textes. Je ne l'ai pas peaufiné à Brême. Bon, il y en a qui le font. C'est sûr, mais il n'y a pas de règle.
Alors, ça c'est une question. Moi, qui... Tu veux dire, un livre comme Oran, il n'est quasiment pas retouché.
Ah non. Ah non. Je le relisais quand je tapais à la machine. Ah non, je ne crois pas que j'ai fait une seule correction. Tout est à sa place. C'est là que je te dis que c'était un grand calme. Hmm. Tiens, ça c'est une bonne question. Les mots... C'est très curieux, c'est presque un journal, hein, au quotidien, comme ça. Bon, j'écrivais pas tout le temps, mais j'avais des quotas, comme ça. Au bout d'un mois, il fallait que j'ai tant de pages, quand même. Comme London, tu sais, qui s'imposait à écrire, je sais pas, 1500 mots par jour, alors que souvent, il n'avait pas envie. Ou il est... Voilà, London, aussi un écrivain extraordinaire, duquel j'ai beaucoup appris. À la fois dans sa vie, certain courage d'être... Et vraiment un type extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Comme Kerouac, comme il y a beaucoup d'Américains. Wiseman, bien sûr, et puis... Moi, j'aime beaucoup Steinbeck aussi, qui était un espèce de personnage complètement fou aussi. Son voyage à travers les États-Unis avec son chien, là, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Tu aimes bien cette perception, on ne va pas dire cette idée, c'est une perception, que la poésie est extérieure. Moi, ça m'avait beaucoup touché quand tu avais dit la poésie, je l'ai empruntée à ma naissance et je la rendrai quand je partirai, comme c'est quelque chose. Et là, ça va avec cette idée de
circulation. Ah, bien sûr, un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord qui disaient qu'ils ont, ou les aborigènes en Australie, que la terre, elle n'était pas à eux, ils l'empruntaient à leurs enfants.
Oui.
Encore mieux. Et moi, je pense que je l'ai emprunté à ceux qui sont poètes qui viendront. Ah oui, ça, j'y tiens beaucoup. Alors là, c'est surtout pas une affaire personnelle. Ce serait une tristesse infinie. Justement, c'est les mauvais poètes qui font une œuvre personnelle. Quelquefois, on me disait, mais c'est pas personnel. Ben, j'y dis, tant mieux. Plus ça passera dans le... Puis, ils s'en foutent, ça, en plus. Ce qui reste, reste. Ça peut être une erreur. Ben, il y a des choses sans intérêt qui restent. Puis des choses intéressantes, mais ça, c'est le jeu. C'est la règle du jeu, si je puis dire.
Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en disant ça, du coup...
Ah, je me... oui, ouais.
Ça ouvre la porte à tout ce que tu as dit avant, qui est qu'il existe des poètes qui n'écrivent pas, que...
C'est
que,
ça.
Que y a... En fait, c'est cette chose que certains empruntent.
Ah, mais je ne sens pas du tout professeur ni enseignant, alors. Au contraire. Au contraire. J'écris, c'est tout. C'est pour ça, Oran, que les gens, même aujourd'hui... Me disent qu'ils ne comprennent pas, mais je dis, mais attends, c'est votre droit, elle m'en fout. Faites ce que vous voulez. Non, non, mais j'ai pas écrit pour que. À la limite, j'ai pas écrit pour qu'on me lise. Hein. Au tout début, je disais que j'écrivais pour les étoiles. Hein, le texte pour les étoiles, c'était un des premiers poèmes parus à l'Écrit Presse. Eh ben, je pense que je dirais la même chose aujourd'hui. Hein. Puis j'en sais rien si elle me lise ou pas, et puis tant pis. Je le fais quand même.
C'est un morceau de foison qui démarque les robes. Les écoles de la rue des Alizes chahutent amicalement les appareils du vitre, du couvercle, du Leroux. Les cloches d'une église orientale fertilisent une première mélancolie inadaptée à l'immédiat. Et Tège, à son rythme, défile des buts frivoles. La modération de l'air s'éprouve jusqu'au fond des eaux. Passé, présent et futur se distinguent seulement par la ration qu'il prélève sur son osmose outrée. Ça tangue légèrement à l'angle du quincaillier, dans unaison.
Parce que des interventions extérieures, tu peut-être pour parler d'Oran, tu disais...
Une personne, ça aurait été bien, mais...
Oui.
Parce que j'aime bien l'idée que des gens qui ont fait des choses pour tes livres ne sont aussi pas absents. Alors, soit cités comme ça, comme je disais pour Louis, soit Malek, effectivement. Si,
mais Malek, j'en ai parlé. Comme ça, juste une intervention. Oui. Quelqu'un qui vraiment a un fond très, très intense, qui est immensément discret.
Non, puis c'était bien que ce soit un lecteur, juste d'Oran.
Oui,
un lecteur
oui
d'Oran,
voilà.
Comme lecteur d'Oran.
Oui, voilà.
Malek Abou, écrivain.
Le premier sentiment que j'ai eu à l'abord des pages, des premières pages, ça a été d'avoir quelque chose qui m'a entièrement neuf par rapport au recueil passé que j'avais pu lire de lui. Comment expliquer ça? Je ne veux pas dire qu'un seuil avait été franchi par l'auteur par rapport à ses œuvres précédentes, mais c'est comme s'il avait réussi à condenser, à objectiver dans Oran une manière d'être qui lui est propre, une manière d'être au monde vraiment très singulière, très intime, qui se dessinait en livré dans ses œuvres d'avant Oran. En cela, il est quelque chose comme un pivot pour moi, dans son œuvre à lui, et au plan personnel pour moi, ça a été aussi... une sensation assez énorme, assez conséquente sur le plan sensible. J'ai compris que l'auteur avait déjà pris un grand risque en publiant, parce que on devine vite que c'est inclassable. C'est un livre hors catégorie, anticarriériste, si vous voulez, totalement fou. Non, j'allais dire totalement fou, pas fou, totalement sauvage et en même temps extrêmement sensé. C'est un paradoxe en soi. Je craignais qu'on en fasse quelque chose qui soit de l'ordre de l'exercice formaliste en poésie, quelque chose d'un peu gratuit. Alors que je sentais que ça relevait plutôt d'une expérience intérieure très forte. Et d'autant plus puissante et forte qu'elle assumait le risque d'être taxée d'illisible. Voilà le rapport d'une expérience objective du réel, quelque chose de cet ordre-là. C'était troublant parce que c'est un livre d'un abord difficile, il y a un fil d'Ariane à tenir, mais un fil qu'on peut lâcher et reprendre aussi facilement. Je dirais que c'est un livre qui est pour moi, on va dire, fondateur, parce que j'ai eu entre les mains, comme ça, à cette époque, un poème phénix, on va dire. Je dis phénix parce que j'y ai vu et ressenti une pratique de la langue qui tue, et qui ressuscite la représentation, et qui retrouve le réel en le métamorphosant. Ça a été très libérateur pour moi, cette lecture, parce que ce type de livre, en fait, donne confiance dans le langage, dans le pouvoir d'énonciation qui est propre à la poésie.
D'ailleurs, la cohérence dont je parlais, là, qui se retrouve à la fin d'une trajectoire, elle n'est pas désirée, c'est ça qui est beau. C'est du... Ou alors des cas exceptionnels comme Balzac, ou d'autres, ou La Recherche du Temps Perdu. Mais ça, c'était déjà pas totalement organisé. Ça vient après. Et au fur et à mesure... Oran, c'était pareil un peu. Je savais un peu ce que je voulais faire, mais tout est venu en l'écrivant. Tout est advenu, tous les noms inventés, tout ça. C'était pas décidé, j'avais pas de plan, j'avais rien du tout. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire de glossaire. Faut que ça reste mystérieux. Le pays de Trelles, je dis toujours, moi, c'est un peu mort chez moi, c'est fini. Mais il y a des gens pour qui ça reste vivant, mais je dis très bien, c'est votre, le vôtre. Changez les noms même. Donc c'est pas, c'est une géographie, c'est aussi une géographie physique, géologique, mais qui appartient à tous, quoi, qui n'est pas. Il peut y avoir un pays de Trelles dans l'océan, tu vois, c'est-à-dire dans le ciel. Il n'y a pas de précepte, voilà. Et au moins, ce serait peut-être aussi ça, simplement, un peu comme Dylan Thomas dit, ouvrez la fenêtre, ce serait ouvrez la porte. Et Trelles, le vôtre, il est là devant. Même dans une ville pourrie, enfumée, avec des voitures partout. Tout est possible partout. C'est, je ne dis pas que c'est facile, hein. Tout est possible partout. Et c'est vrai que c'est dur, souvent, quoi. Mais bon, chacun a ses trucs, hein. Ça regarde personne, ça.
Ça regarde chacun, plutôt. Enfin,
oui, oui, c'est ça, oui. Et encore, moi, ça regarde, mais tu vois, maladie et tout, j'y prends jamais, j'en parle jamais. Je fais avec, quoi, mais je trouve que dans, si tu te répands, ben, ça fait, c'est comme si tu étais deux fois malade, si tu veux. Hein? Moins tu le, c'est présent, plus tu te sens pas malade.
Revenons au rang un petit peu. Quand tu dis que tu as inventé comme ça des mots, des lieux, des personnages, pourquoi tu inventes des mots?
Parce que c'est venu comme ça. Rien de ça ne pouvait pas aller dans ce que je faisais.
Parce que il y a quelque chose qui est frappant.
Parce que Trelles, c'est une invention totale.
Oui.
Hein? Et bien, tout ce qui se passe dans Oran peut avoir des origines, mais de comme un journal. Aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais complètement retranscrit à la fois dans une langue et dans une invention des lieux, des paysages. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut exister que comme ça, pour moi, pour l'écrire. Après, que ce soit plus difficile parfois pour celui qui lit, tant mieux.
Mais alors, ce que je
dis, ça fait un filtre aussi.
Mon sentiment de lecteur, d'Oran, c'est que c'est, de fait, c'est d'une lecture, on ne peut pas qualifier de difficile, surtout pas de difficile,
oui.
Parce que le lecteur n'a rien à faire. Il n'a qu'à se laisser porter. Moi, je disais que la seule métaphore que je trouvais pour la lecture d'Oran, c'est que j'ai fait la planche. C'est-à-dire quand tu es sur l'eau et que tu n'esquisses aucun mouvement.
Oui, peut-être que oui.
Et donc ça ne peut pas être difficile si tu acceptes ça.
Non, moi je trouve
ça,
aussi. Toi aussi, mais.
Parce que c'est pas un livre abscond dont tu irais chercher un sens qui est complexe.
Non, tout est dedans. Il y a rien de mystérieux.
Et c'est,
si,
et
il y a
c'est
le mystère du livre, difficile. Mais il y a rien d'impossible à comprendre pour qui que ce soit.
Voilà.
Ça c'est sûr.
Mais ce qui donne le signal de ce renoncement, c'est au mouvement, pour reprendre la métaphore de la plage, c'est ces mots inventés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des mots inventés, j'accepte de ne pas lutter avec.
Voilà, ça aussi. Pensée. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout inventé. C'est aussi pour qu'il n'y ait pas d'avant-lecture, que quand on rentre dans le rang, on soit un peu comme premier, si tu veux. Tu vois?
C'est exactement ça.
C'est un peu l'idée. Et moi, j'avais imaginé un truc un peu marrant, quand même. Mais bon, c'était une idée comme ça. Disons un théâtre, un peu un vrai théâtre, un peu sérieux, de donner mettre au rang sur le, avec un micro, et que pendant juste tout le lire donc, du début à la fin, avec bien sûr des personnes différentes. Comme quelque chose pourrait rentrer, sortir, tu vois. Comme dans un cinéma permanent qu'il y avait avant à Paris, le Delta, je ne sais pas si vous avez connu, Place du Delta, c'était à Barbès. Et ben, c'était un cinéma, il y avait toujours de la lumière, les gens mangeaient, fumaient et tout, c'était incroyable. C'était beaucoup d'émigrés indiens et tout, de tous les pays, pakistanais. Et un jour, moi j'aimais bien, les films n'étaient même pas sous-titrés. Moi quand ils voyaient arriver, ils voyaient un blanc. Après ils me passaient les gâteaux, tu sais. Ah, c'était extraordinaire. Et un jour, je vois un reportage. Ça durait 2 heures. Je dis, mais merde. aucune explication, pas de sous-titre. Puis avec une voix, j'ai compris que c'était l'enterrement de Oum Kalsoum, au Caire. Et ils étaient tous en larmes, autour de moi. Je ne savais pas qui c'était à l'époque. C'était vraiment une vision extraordinaire, quoi. T'étais à Paris, mais partout dans le monde, je ne savais plus où j'étais. Et ça m'a fait du bien cette journée, je n'oublierai pas. Je suis resté jusqu'au bout à manger des gâteaux avec les gens qui pleuraient et tout. Et je ne savais pas qui c'était. Et t'avais en direct, hein. C'était l'enterrement, tout entièrement, avec, dans le Caire, là, le cortège funéraire, suivi par des millions de gens. C'était une légende, hein. Et c'est un souvenir qui m'est resté, comme beaucoup d'autres. Mais j'y viens en parlant de cinéma, là. Je me suis dit, voilà, le cinéma, extraordinaire, quoi. C'est le hasard, c'est l'actualité qui fait ça. Ils retransmettent ça, il y a plein de monde. Ça mange, ça, je crois que ça fumait, ça, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, ça se passait. Alors, moi, je ne les connaissais pas, c'est des familles entières. Hein, ils passaient les gâteaux, les machins. Ah, je sais, ça, c'était merveilleux.
Pressant ce qui, là autour, déroute par la tête d'images ces visites refaites dans les nuits aux pentes de la route, derrière la tête, avant un sommeil puis un autre, quand toujours après, lorsqu'il réexamine l'exemple, il doit s'avouer qu'il ne le connaissait et qu'il est à chaque fois nouveau. Pressant les loges, un enchevêtrement de souffle indispensable au long d'une balade à quatre ou à trois des grandes revues, à chacune familière et de laine sur les retards d'entier tour complet peu sévère, sans voix, car c'est renversé que vient ce fini. Du fini bout de son rapport de ruisseau et de route, dont il a encore beaucoup à apprendre. Trois chenilles, trois couleurs, une racine à la fresque, vertigineux coulissant d'optique avec le dit, et pour en élever sur la plante des appaleuillers. De son côté, que des fleuves, que des fleuves. La grande pièce du hall les lui avait présentée. Les meubles dans cette ville qui avait tellement souffert de la guerre en les regardant la nuit avant de sommeiller. On ne pouvait pas l'aimer pour y demeurer, mais par l'extérieur que le chercheur du porche et Hétor lui avaient entièrement réorganisé après les destructions. Il y avait comme un miracle dans cette ville qui redonnait un éclairage juste. Un éclairage comme il le fallait, fleuriste, comme une vague, petite de lac ou autre étendue, n'importe laquelle en s'y rendant. Son ami couché dans l'autre lit, on aurait pu en gravir des épaliers d'aurore et de feu.
Les mots que tu inventes dans Oran, c'est aussi... ça va aussi de pair avec, parfois, une façon de malmener la syntaxe. Tu la respectes pas toujours, là.
Non, mais c'est pas une volonté... ça vient comme ça. Parce que ça ne me convient pas, ce qui... Le matériel que j'ai ne me convient pas, les mots, tout ça, donc... Non, c'est pas du tout de la provocation ou...
Non, je l'ai pas vécu comme ça.
Une volonté délibérée de... Non, c'est parce que j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai comme un sac, tu prends les mots, il m'en manque, je l'ai fait. Moi, de plus en plus souvent, j'écris des grands poèmes dans mon lit la nuit, et j'ai pas de crayon, j'ai pas la force d'écrire. Le lendemain, j'ai oublié. Et ben, je me dis pas, oh, quel dommage. Je me dis, ben non, c'est un texte pour les étoiles, justement. Et ça me... C'est comme ça. Si je te l'écris, je l'écris. Si je peux pas, je peux pas. Il y a aussi le filtre de la maladie. Tu vois, quelqu'un, il peut se lever, il peut prendre un calepin, puis écrire... Kerouac avait essayé un livre des rêves. C'est son plus mauvais livre, à mon avis. Alors que... Quel écrivain. C'est curieux, ça. Hein, on croit que, dans le fond, quand on se sert de quelque chose qui vous est donné, comme le rêve, un exemple, faire très attention. Très attention. Moi, j'ai même écrit un poème, un long poème qui s'appelle « Le sang du rêve ». Mais le sang, S-A-N-S. C'est-à-dire ce que le rêve vous enlève. Il est utile parce que moi, j'ai des rêves toutes les nuits invraisemblables, mais je pense qu'ils me déchargent, qu'ils me s'en vont, qu'ils me soignent, au sens presque pathologique. Ça déverse. Le matin, souvent après des grands rêves invraisemblables, pas des cauchemars, mais des rêves où je suis souvent sur la sellette. J'ai l'impression d'être vide, d'être nouveau. C'est merveilleux, ça. D'avoir fait du trajet qui était compliqué, ça m'a fait gagner du temps. Le rêve, j'y tiens beaucoup, mais je m'en sers pas, voilà. Je laisse ça ce qu'il est. Je ne veux surtout pas me servir du rêve. Moi, je vis à côté d'une forêt, je peux vous jurer qu'il n'y a rien de plus difficile. Elle vous impose une sorte de silence, de solitude. En gros, elle me dit « tais-toi et regarde ». Et ça, c'est une leçon. Hein. Et si vous ne vivez pas vraiment dans la nature, mais au sens premier, on ne peut pas. On ne peut pas. Ceci dit, ce n'est pas une inspiratrice plus que la ville, c'est pareil. Hein. Encore une fois, j'écrivais dans des cafés à Paris, bruyants et tout, de la même manière qu'ici, dans un silence complet. Ça n'avait rien à voir. Donc c'est pas ce qui compte, c'est comme un reflet. Ce que tu donnes, c'est-à-dire en prenant l'exemple d'une forêt, elle se reflète en toi, et si tu l'envoies pas à quelque chose, sans entrer dans un mysticisme minable, si tu l'envoies pas à quelque chose qui ne l'entame pas, tu restes ce que tu es, ça va. La cohabitation est bonne. Mais sinon, si tu commences à dire c'est ça la forêt, voilà, je vais. C'est foutu. Foutu. Encore une fois, c'est elle qui t'enseigne, c'est pas toi.
Mais entre la forêt qui est tout près de ta maison et la forêt que tu vas restituer sur
Ah, je la restitue pas. D'une autre manière, cryptée. Non, oui. Non. Ah non, je la restitue pas.
Et non, la poésie que j'écris. Quelque chose,
c'est oui, mais. Ah non. Non, non, elle m'influence. Mais elle n'est pas source. Elle est influence, comme beaucoup de choses. Comme Elvis Presley. Tu vois ? Je dirais, j'aime beaucoup Elvis Presley, mais je n'en parle pas dans mes livres. S'il y a un texte que j'ai appelé Elvis Presley, sa navigation, mais qui n'a rien à voir avec lui. C'est juste pour situer Christophe Colomb et Presley dans un même sac, tu vois. Je secoue, et puis voilà. Non, non, ça n'a rien à voir. Il y a aussi beaucoup de. Les mots, ils peuvent être objectifs aussi, hein. Ça peut être comme des pierres, hein. Tu prendras un rubis ou un calcaire, dans le même poème, ben ils sont ensemble, c'est tout. C'est drôle de reparler de tout ça, parce que je ne parle jamais. Jamais. C'est pas que ça me gêne d'en parler, pas du tout. Mais c'est comme du passé, quoi. Par contre, il y a une chose que je peux dire quand même. C'est vrai que c'est pas le plus. Mais je suis pas mécontent d'avoir pu faire tout ça quand même. Au moins. D'avoir pu mener ça à bien. Ce qui n'empêche pas de penser que, bon, encore une fois, c'est. Pas absolument. Mais moi, j'ai pu, personnellement, j'écris encore beaucoup, presque tous les jours. Et. Pour. J'aime pas le mot trajectoire, tout ça, c'est un peu con. Mais comme une vie, quoi, d'arriver quand même à avoir à peu près fait ce que je voulais. On lit j'ai bien à peu près. Hein. Et rien que l'à peu près vous coûte très cher, en fait. Coûte très cher.
L'histoire se fait ainsi, grâce à des colporteurs modestes et silencieux. Des solitudes qui s'éclairent à la bougie d'un livre acheté en solde. Des butineurs nomades. Mathieu croit en une forme d'essaimage. On peut évoquer quelques signes de cette gigantesque entreprise de l'ombre. L'écrivain chilien Roberto Bolaño évoque sa lecture de Mathieu dans un de ses livres et ce qui fait sens ici n'est pas le sentiment de reconnaissance, mais une saine fascination pour cette transhumance du texte. Ce cheminement mystérieux que l'on dirait clandestin depuis Colombier-Fontaine jusqu'à Santiago du Chili, sans qu'opère la puissance médiatique ou des passeurs institutionnels. Il y a de quoi s'émouvoir de compter parmi nos intimes tant de solitudes miséreuses, mais dont la vacillante flamme a fini par éclairer nos nuits. Stanislas Rodansky, Gérald Neveu, César Vallejo, Jean-Pierre Dupré. Ce qui frappe tant dans la compagnie de Mathieu est sans doute cette manière tout à lui de concilier la plus grande solitude à la conscience du groupe, fut-il dispersé, silencieux. Une insondable solitude liée à l'immobilité et au travail, peuplée, réchauffée des présences d'amis, Michel Bulto, le quasi-frère, les visiteurs fidèles comme Louis Ucciani, Michel Collet, le réalisateur Nicolas Sornaga, l'écrivain Malek Abou, de peintres compagnons comme Dado, des éditeurs, Yves Dimano, François Didiot. Cette appartenance à une histoire familiale, un dialogue constamment rejoué avec l'œuvre de Jean Messager, mais toutes ces rencontres, ces discussions de vive voix ou sur papier ou par télépathie, semblent ne grignoter qu'à la marge le grand cahier des solitudes. Celui qui s'ouvre dans les nuits, celui où s'écrivit Oran. Tout cela disparaîtra quelques jours, et c'est tant mieux, dans les vacuités vagabondes du cosmos. Lisez un peu, pendant que c'est encore chaud.
Comme une grille qui retient les feuilles, il retenait. Ou alors les secondes, de l'homme, l'oiseau, comme ils auraient été de pair assis sur ce qui reste aujourd'hui de la voie romaine, avec les aventures de l'anguille et le visage étrange aux cils en visite de celui qui aurait pu aussi bien être ailleurs. Fait, limon, achir et trelles. En se déplaçant du passement de fer jusqu'aux confins de la réserve, avec dans le corps, sans exception, le grand calme et la compagnie éphémère d'un Italien qui, lunette d'un été qui ne réchauffe rien, et pourtant, à eux trois, avec l'oiseau, ils n'avaient pas arpenté de leurs pieds. On ne peut pas dire que l'écorce du grand peuplier s'effleure. Et l'extraordinaire, la rivière, qui coulait près de se remémorer les habits qu'ils portent.
On peut ne pas se perdre dans son livre tout en cheminant avec la plus noble exigence. Il existe pléthore de chefs-d'œuvre que l'on regarde comme des joyaux et non comme des traversées. Des formes monolithiques proches de la perfection, des flocons de neige, des pierres rares, des gouttes d'huile essentielle que le lecteur verse sur son poignet, des machineries miniatures édifiantes, des horlogeries à la précision diabolique. Et puis il y a les autres, les livres monstres, les entreprises totales, les naufrages ou les égarements sublimes. J'étais très loin, bien sûr, d'appartenir à cette cohorte qui avait fait de la déroute sa ligne de conduite. Mais toujours est-il que je m'y frottais, et cela rendait plus présent en moi certaines lectures, certains écrivains, certaines expériences, certaines solitudes.
Allô, oui.
Jean-Marie, bonjour.
Salut, Christophe.
Alors, on aurait pu parler de ton dernier livre, « Ce qu'ici-bas nous sommes », qui vient de sortir, qui est magnifique. Mais l'histoire de l'émission a commencé avant. Et puis, je voulais revenir avec toi sur un livre, tu sais, qui a beaucoup compté pour moi, dont la lecture a beaucoup compté pour moi, qui est « Là où les tigres sont chez eux ». Et mon propos aujourd'hui, c'est vraiment d'évoquer cette traversée qui a été très longue. J'aimerais que tu me dises un petit peu ce qui te reste de cette traversée, de ce sentiment d'écriture. Est-ce que, par quoi t'es passé, comment ce livre t'a amené pendant toutes ces années jusqu'à une publication qui n'a pas été évidente?
C'est le moins qu'on puisse dire, oui, oui. Écoute, par rapport à la genèse du livre lui-même, c'est vrai que j'ai commencé à y penser dans les années 73-74. Et j'ai commencé à me documenter principalement sur le personnage de Athanasius Kircher, qui était le point de départ, le moteur de ce livre, l'idée que je voulais développer à partir de ce jésuite un peu cinglé, comme tu le sais. Et Il y a eu d'abord un travail de documentation absolument gigantesque. C'est vraiment quelque chose qui était en permanence chez moi. Je ne pensais qu'à Athanasius Kircher et à la possibilité d'écrire un gros roman à partir de ce personnage. Et après, il y a eu le processus de planification. Il a fallu que j'invente une histoire à partir de ce personnage, que je la mélange à ce que je voulais dire du Brésil, etc. Et quand ça a été prêt, je me suis mis à l'écriture. Et là, il y a eu une sorte vraiment de dissociation totale pendant 10 ans de mon être, parce que j'ai commencé à écrire à Taïwan la partie Kircher. Donc je vivais en Chine et en même temps j'étais du matin au soir dans le XVIIe siècle et dans les fastes du Vatican et ces choses-là. Donc c'était complètement anachronique et ça l'a été tout le temps de l'écriture parce que c'est vraiment la phrase de Rimbaud, hein. Mon roman sans cesse médité, c'est vraiment comme ça que je le vois, ça fait partie de ma vie. Quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir passé 20 ans à écrire, à ne m'occuper que de ce livre, à ne penser qu'à ce livre, à ne rêver qu'à ce livre, ou en fonction de ce livre, à tirer des pistes, à lire des centaines d'ouvrages s'y reportant. C'était une impression d'une monstruosité. Déjà, lors de l'écriture, je voyais bien que d'abord c'était décidé, il fallait que ça fasse 1000 pages, il fallait que ça soit un monde entier, et donc une monstruosité. Donc à la fin, il y avait ce manuscrit de 1000 pages qui a été refusé par mon éditeur. Et là a commencé une autre mésaventure, pour le coup, puisque je suis resté sans éditeur durant 10 ans, et que le fait qu'il ne soit pas publié m'a mis en déséquilibre complet, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à abandonner, à commencer un autre livre sans que celui-là soit publié, donc j'en préparais, il m'a fallu du temps pour digérer ce que je considérais finalement comme un échec définitif, jusqu'à ce que le miracle se produise et que, comme tu le sais, le livre finisse par être publié miraculeusement par les éditions Zulma 10 ans plus tard, en 2008. Qui connaissent un succès, en tout cas, trouvent des lecteurs.
Des lecteurs, des prix.
Oui, j'ai été gâté. mais d'une certaine manière, c'était. J'avais l'impression quand même que c'était mérité. C'était la sanction d'un réel travail. Quoi. Il n'y avait pas de raison que ce livre ne soit pas publié tel qu'il était.
À pas aveugles de par le monde. Leib Rochman.
Don Quichotte, Cervantes.
Ulysse, Joyce. Belle du Seigneur, Albert Cohen.
Zone, Mathias Sénard.
Oran, Mathieu Messagier.
Les frères Karamazov, Fyodor Dostoïevski.
100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez.
Les livres de Jacob, Olga Tokarczuk.
Vie et mort de Tristram Shandy, Lawrence Stern. À la recherche du temps perdu, Marcel Proust.
Une liste dont l'incomplétude frôle la bêtise, Thomas Mann. Dont les voisinages font parfois sourire.
Là où les tigres sont
absurde, comme toutes les listes.
Jean-Marie Blas de Robles.
Celles de lecture qui m'ont fait entrevoir la solitude d'un écrivain occupé à accomplir un pas au-delà. La tentative ou le geste de donner naissance à un livre qui soit monstre ou qui soit monde.
Proust, par exemple, avait une famille et tout, et puis, c'était merveilleux, lui. Une sorte de... Mais il a beaucoup souffert, hein, par ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'avec l'asthme qu'il avait, il avait un lit en cuivre et en liège. Et une anecdote que j'aime beaucoup à ce sujet, je vais la raconter, parce que au printemps, avec les pollens de fleurs, les amis qui venaient le voir, à l'époque, Céleste, son assistante, eh ben, elle disait ne passez pas près des lilas, parce que sur la veste, vous aurez du pollen et il va avoir une crise d'asthme épouvantable. Bon, ben, il y avait tout un cérémonial autour de ça. Et puis, un jour, un ami en Normandie, vraiment, l'invite. Depuis longtemps, il voulait l'inviter dans sa maison. Il accepte, mais il dit, mais t'inquiète pas, ton chauffeur, la voiture sera fermée. Il n'y aura pas de fleurs sur le chemin et tout. Puis il arrive dans la pièce, la chambre qui était destinée. Puis là, il a une crise d'asthme épouvantable. Parce qu'il y avait du papier à fleurs. Mais c'est ça, la poésie. Et j'ai écrit un poème là-dessus qui s'appelle « L'explication par les fleurs imprimées ». Moi, pour moi, c'est plus qu'une anecdote.
Générique des choses essentielles que l'on n'a pas dites. L'architecte du moulin est Jean-Louis Verret. La femme de Jean Messagier, céramiste, s'appelle Marcel Baumann. Louis Outiani a réalisé une vidéo et écrit un livre autour d'Oran sous le titre commun de « La question oubliée ». En 2003, Nicolas Sornaga réalisa un film improbable et merveilleux dans la compagnie du poète sous le titre « Le dernier des immobiles », disponible aujourd'hui en DVD. Mathieu Messagier s'entretient avec Michel Collet dans un livre intitulé « De la futilité et autres nuits rapportées » et publié aux éditions Mediapop. Mon roman, chronique des années d'amour et d'imposture, est paru en 2019 chez le même éditeur. Un aller-retour au pays de Trelles, avec Mathieu Messagier, Malek Abou, Jean-Marie Blas de Robles. Lecture par Claire Toubin. Réalisation Gaël Gilon. Prise de son Arthur Gerbeau. Mixage, Philippe Mercher. Coordination, Inès Duperron et Aurélie Charron. Une émission de Christophe Fourvel.
La semaine prochaine dans L'Expérience, Boris Lehmann, le cinéaste belge dont la vie nourrit ses films et les films sont devenus sa vie, se pose la question des archives. C'est Boris Lehmann à la recherche du tombeau idéal. En attendant, il sera bientôt 23h, vous écoutez France Culture et vous retrouvez Mathias Sénard, Salle des Machines.